Une histoire particulière. L'expression « pied noir » est apparue au début du XXe siècle dans l'argot des marins. Elle désigne alors, sur un navire, le chauffeur de la soute à charbon qui travaille pieds nus. Ces ouvriers sont souvent des Arabes d'Algérie. Pendant la Grande Guerre, les poilus les surnomment également ainsi. Vers 1954, au début de la guerre d'indépendance algérienne, l'expression change de destinataire. Désormais, les pieds noirs, ce sont les Français d'origine européenne nés en Algérie. Une multitude d'explications parfois tirées par les cheveux ont été proposées. Mais alors, les pieds rouges, qui sont-ils par rapport aux pieds noirs? D'où viennent-ils? Pour comprendre, retour en 1962, Julia Perrin et Laurent Polleret vous racontent une histoire méconnue entre France et Algérie.
C'est une histoire méconnue, à la fois française et algérienne, que nous allons vous raconter à travers les souvenirs de familles venues vivre en Algérie après l'indépendance. Enfant pied rouge, un documentaire de Julia Perrin, réalisé par Laurent Polleret, premier épisode, l'arrivée des amis de l'Algérie nouvelle. En 1962, des Français, mais aussi d'autres étrangers, viennent vivre en Algérie algérienne, sans savoir pour combien de temps. Leur nombre n'est pas défini. Ils sont peu par rapport à la population du pays, mais conséquents de par leur enthousiasme et leur engagement. Certains sont d'anciens porteurs de valises, des déserteurs, ils sont engagés à gauche, trotskistes, militants anticolonialistes, tous sont partisans de l'indépendance. D'autres sont tout simplement amoureux de la liberté. Ils quittent la France, soucieux d'apporter leur pierre à l'édifice dans la construction d'un pays neuf. Sylvette Chauma se souvient de l'engagement de ses parents. Son père, Maurice, alias Sylvain, est trotskiste. Et dans ce petit village, tout se sait. En 1955, deux membres du FLN le contactent, Lyonchi et Ben Salem. Il s'engage comme porteur de valises et lance une imprimerie pour le FLN. Sa femme, Simone, est complice. Elle partage les mêmes convictions politiques.
Le journal Titre des intellectuels lyonnais avait monté dans une ferme imprimerie à Chasselet une organisation propagandiste modèle en faveur du FLN. En novembre dernier, la DST cherchait à retrouver la trace d'un candidat à la députation de Grézieux-la-Varenne, M. Chauma, soupçonné de complicité avec les terroristes algériens. Exploitant un renseignement, ils se dirigèrent aussitôt sur Chasselet, où tout laissait à croire que l'imprimerie pro-FLN avait été transférée. Et c'est daté du 6 février 1960. Il est recherché par la police parce qu'il fabrique des petits journaux, les fameux petits journaux. C'est l'imprimerie du FLN, c'est une imprimerie normalement itinérante. Alors elle imprime des tracts qui informent sur les tortures en Algérie, qui informent de ce qui se passe réellement, quoi, qui appellent les Français, les jeunes Français à refuser de partir combattre en Algérie. C'est la branche du FLN qui s'appelle la Fédération de France. Et elle fait un travail effectivement d'information destiné à la France et puis ensuite à l'Europe, puisqu'il y aura aussi un réseau sur la Belgique, sur l'Allemagne, etc.
Il y a votre père qui disparaît dans la nature. Mm. Et il va où puisqu'il est recherché?
Dans un premier temps, il semble qu'il soit caché dans une maison qui appartenait à un de mes grands-oncles, pour une courte période, je crois. Et puis ensuite, il part en Suisse et au bout de quelque temps, il part au Maroc. Il va devenir permanent de la mission au Maroc du FLN. Sa seule activité, c'est l'appui au FLN. Donc ça va être dans un premier temps la sensibilisation des Français au Maroc à ce qu'est la guerre d'Algérie. Et dans un deuxième temps, c'est l'information, c'est les journaux, des films sur les réfugiés algériens au Maroc. Et c'est à cette occasion-là qu'il va rencontrer Paul Moiti et François Chevaldonnet, avec lesquels ils vont travailler sur la réalisation de films, de photos, de reportages photos.
Archivina, du 5 juillet 1962.
Depuis des heures stationne une foule énorme, massée sur des kilomètres, d'un bout à l'autre d'Alger, depuis Belcourt à l'est jusqu'à Bab El Oued à l'ouest. Des centaines de milliers d'Algérois, massés sur 10 ou 15 rangs de profondeur, agitant de toutes parts une véritable mer de drapeaux FLN, sous un soleil déjà chaud, Le peuple attend maintenant le grand défilé de l'indépendance, défilé auquel doit participer l'armée de libération nationale algérienne qui a commencé à faire son entrée massive dans Alger depuis bientôt 24 heures.
Quand l'été 62 s'achève, les gens se disent « ça y est, on est sorti de la guerre avec la France » et « ça y est, il y avait des manifestations pour dire « 7 ans, ça suffit, 7 ans de guerre, ça suffit » hurlaient les femmes et les manifestants aux dirigeants militaires en disant « arrêtez ».
Catherine Simon, journaliste, ancienne correspondante au Monde en Algérie.
Finalement, ils ont arrêté parce que Boumediene a gagné, donc c'est pour ça qu'il a arrêté et qu'il est rentré dans Alger à la fin de l'été en se faisant applaudir avec Ben Bella, avec qui il avait passé un accord politique. Et il avait donc son entrée dans Alger. Et là, évidemment, de toute façon, juillet 62, il y a eu un moment de liesse qui a duré... c'était formidable, quoi. On pourrait peut-être comparer ça avec les moments de la libération en 45 en France. C'était quelque chose de formidable pour les gens. Tout le monde était dans les rues, les hommes, les femmes, les gosses, ça klaxonnait de partout, des drapeaux algériens partout. Et cette liesse a quand même duré, ces espérances ont duré, d'autant que Ben Bella... Toutes ces histoires de cliques et de clans qu'on a su après coup, grâce au travail de Harbi notamment, grâce au travail de Meunier et d'autres, ou de Stora, toutes ces histoires de cliques et de clans, les Algériens ne la connaissaient pas, ou très peu. Voilà. Donc pour eux, ce qui était important, c'est qu'ils étaient libres, ils étaient un pays souverain, ils auraient leurs dirigeants, c'était leur pays, ils prenaient possession enfin de leur terre, de leur identité. Et Ben Bella était quelqu'un d'assez populaire. Il aimait le football, il s'intéressait aux paysans, ce qui n'était pas le cas des autres dirigeants à l'époque. Et puis il avait une espèce de faconde comme ça, c'était un homme assez simple, hein, qui n'était pas du tout dans le décorum. Donc il s'est attiré, c'était un bon orateur, et donc il s'est attiré la sympathie assez rapide des Algériens. Voilà. Donc il arrive très vite à la présidence. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe l'année 62-63 ? Les choses commencent à s'installer un peu. Et très vite, on va voir dans quel sens les choses tournent, avec notamment l'adoption du code de nationalité, l'adoption de la Constitution. Ces deux textes majeurs qui sont votés très vite dans la foulée de 62, en 63. Ces deux textes font de l'islam la religion de l'État. Et surtout... disent que n'est algérien qu'une personne dont les deux, le père et le grand-père, les ascendants, mais côté homme bien sûr, sont arabes et musulmans. Ce qui exclut de facto, évidemment, tous les Européens d'Algérie, mais aussi des Algériens comme les Juifs du Mzab, qui n'avaient pas été inclus dans ce décret Crémieux qui avait fait des Juifs des citoyens français. Donc il y a eu toute une série de choses comme ça, sans parler des gens comme Henri Allègue, dont on connaît le nom parce qu'il avait fait ce livre formidable qui s'appelait « La question ». Il avait été torturé par l'armée française, c'était un juif d'ailleurs, militant, londonien, et qui avait milité pour l'Algérie indépendante, et qui était notamment le rédacteur en chef de ce grand journal « Alger Républicain », où avait travaillé à un moment donné Camus, etc. Bon. Et ce Henri Allègue, ce grand militant, lui-même n'avait pas droit à la nationalité algérienne. Et on a compris très vite le pli qui allait être donné au pays, et la chape de plomb, en fait, qui allait commencer à tomber, puisqu'elle excluait tout ce qui n'était pas arabe, musulman. Voilà, donc ces premières années de l'indépendance ont été vraiment fondatrices à plus d'un titre.
Après le démantèlement de l'imprimerie, en 1960, Sylvain est recherché par la police et se cache au Maroc. Il œuvre pour le FLN dans un camp de réfugiés à la frontière algérienne.
Il s'est fait pousser la moustache au Maroc. Il est naturellement brun. Il ne pouvait pas vraiment passer pour marocain au Maroc. Donc il a d'autres faux papiers où il est dit né d'un franco-marocain et d'une marocaine. Il fallait qu'il y ait du mélange parce qu'il ne passait pas vraiment comme marocain au Maroc. Et en juillet 1962, mon père demande à partir pour Alger. Je sais qu'il y va dans un premier temps pour un voyage. J'ai trouvé son laissez-passer pour un voyage pour une durée d'un mois. Alors la situation est compliquée en Algérie, il n'y entre pas qui veut. Enfin, le FLN n'est pas tout à fait unifié. Il y a différentes tendances, il y a des luttes de pouvoir. La vie est quand même très compliquée en Algérie, quoi.
C'est une rue de Paris.
Christine, fille de Pierre et Pierrette Aubin.
Où mes parents sont ensemble, mon père venait d'annoncer, je l'ai su il n'y a pas longtemps, à ma mère qu'il partait vraiment en Algérie. Ce n'était pas un engagement, il y allait. Et donc il est parti en, je ne sais plus c'est août ou septembre 1962. Donc, mais enfin, il est parti un peu vite, quoi. Et nous, on s'est retrouvés avec ma mère. Il était enthousiaste parce qu'ils ont été reçus, tous ces jeunes profs, par Ben Bella. On leur a offert une montre avec le drapeau algérien qu'il a gardé. Il était très fier de cette montre. C'était la montre offerte aux amis de l'Algérie. Et quand on lui écrivait, aussi « République algérienne, démocratique et populaire ». C'est long à écrire, mais il fallait mettre ça. Pour ne pas manquer de respect. Il était rempli de respect pour le pays où il allait. Il ne fallait pas dire comme les pieds noirs, il nous disait « les musulmans ou les arabes ». Il fallait dire « les Algériens ». Après, il nous envoyait des lettres où il signait « El Roul ». El Roul, ça veut dire « le logre » en arabe. Et il se dessinait, lui, avec la barbe... Et il était enthousiaste pour tout, il racontait plein de choses. Je ne sais pas si ma mère en a gardé, des lettres comme ça. Mais il était enthousiaste. Et quand il est revenu à Noël de 1962, il apprenait l'arabe. Il avait vraiment envie d'apprendre. Enfin, il montrait qu'il apprenait. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
Les grosses dates, on les connaît, c'est mars, les accords d'Évian, juillet, l'indépendance, et cet été 62 est marqué principalement par l'exode des ceux qu'on va appeler les pieds noirs, qu'on appelle à cette époque les rapatriés d'Algérie. Les trois quarts des Européens d'Algérie partent. C'est énorme. Et c'est énorme non seulement par leur nombre, mais surtout c'était tous les cadres, les fonctionnaires, les ingénieurs, les petits patrons, etc., qui faisaient tourner les usines, qui faisaient tourner l'agriculture, qui faisaient tourner le commerce, qui faisaient que les cinémas et la presse existaient, etc. Donc tous ces gens-là s'en vont. Certains pieds noirs, effectivement, vont rester, qui ont été du côté du FLN, qui étaient médecins, enseignants, etc., et qui sont restés avec l'accord et la bienveillance du régime, qui sont restés en Algérie, et dont les enfants, d'ailleurs, sont toujours, pour certains en tout cas, encore en Algérie aujourd'hui. Et il reste une terre brûlée. Alors d'ailleurs, littéralement, parce que certains pieds noirs, y compris à l'université, ont saboté qui les appareillages, je ne sais pas, moi, au secteur de chimie, on a cassé, voilà, pour qu'il ne reste plus rien, pour les Arabes, voilà, c'est ce qu'ils disaient. Certains partaient, plutôt que de laisser leur voiture, ils l'achetaient dans le port d'Alger. Enfin bon, il y a eu des scènes comme ça, c'est assez connu. Les Français, en gros, s'en vont. Les Européens d'Algérie s'en vont. Et reste une terre brûlée, donc... parce que l'immense majorité des Algériens sont illettrés. L'Algérie, on la retrouve dans l'état que Germaine Tillon, la grande ethnologue, avait qualifié de clochardisation. Et donc, effectivement, c'est un pays qui est à genoux, où il ne faut absolument pas refaire, il faut tout faire. Par exemple, si on prend le seul secteur de la santé, pas de médecins, pas d'infirmières, pas de sages-femmes, pas de vaccins, pas de médicaments, pas. Donc voilà, alors... entre pieds noirs et pieds rouges, je pense qu'ils se connaissent mal. Quand ils se rencontrent, quand c'est en 62, souvent il y a vraiment des tensions, parce que évidemment, c'est une période très violente, et où ces pieds rouges sont souvent un peu là, naïfs pour le coup, et ils se prennent pour des commissaires politiques, et ils prennent les pieds noirs de haut, comme si tous les pieds noirs étaient d'affreux exploitants, etc., ce qui n'était pas vrai, évidemment, de tout cela. Et donc, certains de ces pieds rouges, pour la santé, Annette Beaumanoir est un personnage à la fois connu et elle aura un rôle très important. Elle sera le numéro 2 du ministère de la Santé à Alger jusqu'au coup d'État de Boumediene en 65. Et c'est grâce à elle et à bien entendu beaucoup d'autres, y compris algériens bien sûr, mais aussi, on l'oublie parfois, des militaires français qui étaient restés dans le sud du Sahara et qui ont empêché notamment des épidémies de se répandre. Et donc, il fallait absolument tout faire, à la fois en termes de formation. Il fallait parer au plus pressé, éviter les épidémies, éviter... Bon. Donc, c'était quand même à la fois une joyeuse pagaille, un grand moment d'effervescence, parce que les gens se disaient quand même, tout est possible, il y a tout est à faire, quoi. Et donc, les gens, y compris les pieds noirs, ont à ce moment-là, je pense, été, pour certains d'entre eux, en tout cas, très utiles.
Archivina, du 5 juillet 1962.
Vous savez que nous passons d'un pays colonisé à un pays indépendant. Et c'est un problème qui se pose pour tous les pays qui viennent d'avoir leur indépendance. On ne peut pas dire qu'on a besoin d'eux. On pourrait avoir besoin d'un Américain, d'un Anglais, d'un Italien ou d'un Égyptien ou n'importe quoi. Étant donné qu'on manque de techniciens, ça c'est une chose qui est vraiment, enfin technicien, on peut dire, de professionnels.
Depuis 1960, les chômages vivent au Maroc. Sylvain a décidé de partir en Algérie en 1962. La famille est séparée pendant environ 2 ans.
Ça, c'est les lettres qu'il nous envoyait quand il était déjà en Algérie et qu'on était au Maroc. Ici, il y a beaucoup, beaucoup de gens malheureux. Des petits-enfants qui n'auront plus jamais de papa ou de maman parce qu'ils ont été tués à la guerre. Des familles qui n'ont plus de maison. Des hommes qui ne pourront plus jamais courir ou sauter ou marcher longtemps pour se promener parce qu'un jour, un canon leur a coupé une jambe. Tout ça est bien triste, et pourtant je vous le dis parce que vous êtes de grandes filles et aussi parce que je voudrais que vous compreniez la chance que vous avez d'avoir une jolie petite maison avec une chambre rien que pour vous, d'avoir une belle école où vous apprenez vraiment bien dans la joie et la tranquillité, d'avoir une mamoune qui a sacrifié son calme de Grézieux pour se rapprocher de vous, enfin d'avoir la meilleure maman du monde, et puis aussi d'avoir un papa qui part souvent mais vous aime beaucoup et pense beaucoup à vous. Je vous embrasse tous les trois bien fort et je vous demande d'embrasser pour moi bien bien fort votre mamoune et votre petite maman, votre papa. Nous étions encore au Maroc et lui était déjà parti à Alger. Donc ça doit être début 63.
Je suis partie par goût d'aventure, une espèce d'idéalisme aussi.
Danielle Hamon à 25 ans quand elle part en Algérie.
Je ne pensais pas courir un danger. Quoique j'avais été nommée avant la fin de la guerre. Et j'avais été nommée d'office. À l'époque, pour terminer mes études et passer le CAPES, j'avais été admise aux IPES. J'y suis entrée, mais il fallait s'engager à servir 10 ans dans l'enseignement. Et à la fin de mes études, au CAPES, on m'a nommée en Algérie alors que l'indépendance n'avait pas encore été actée, quoi. C'était encore la guerre. Le jour de ma nomination, le lendemain, les journaux titraient 45 morts à Constantine, et c'est là que j'avais été nommée. Ça m'emballait pas du tout, quoi. J'ai refusé le poste. Honnêtement, j'avais pas envie de me retrouver en pleine guerre, une guerre à laquelle je n'adhérais pas non plus. Entre-temps, j'avais pris un poste pour travailler dans l'enseignement privé, une école religieuse. Il fallait assister à la prière tous les matins, même si on n'adhérait pas. À l'indépendance de l'Algérie, le fait que j'y avais été nommée et que je n'y étais pas allée, peut-être que j'avais un peu mauvaise conscience... Alors je me suis dit qu'il y avait un rattrapage. Je m'ennuyais aussi chez les bonnes sœurs. Je ne me sentais pas dans mon milieu. Et donc, voilà, j'avais envie d'autre chose, quoi.
Mais vous saviez qu'il y avait une vague de pieds rouges qui partait en Algérie à ce moment-là ?
Pas vraiment. J'ai fait une demande. Au départ, je ne savais pas. J'ai fait une demande officielle. Je me rappelle que j'étais aussi partie déjà. Donc j'avais quand même envie de voyage. Parce que j'étais partie une année comme assistante en Angleterre. Et j'étais contente à l'idée de continuer à explorer un peu l'Europe, sinon le monde. Et puis là, c'était même pas l'Europe, c'était... Enfin, on disait encore Algérie française à l'époque. Je suis arrivée avant Noël 1962. Et je m'en souviens très bien parce que... Bon, il n'y avait personne pour m'attendre. J'ai débarqué, c'était dur de partir. J'avais fait une demande officielle par le ministère et il n'y avait jamais de réponse. Et j'ai fini par téléphoner au syndicat. Alors j'ai essayé le SNES qui ne m'a pas répondu. Alors après, je me suis adressée au SGEN, syndicat chrétien, qui m'a répondu. Quelqu'un m'a téléphoné en disant « Vous savez, les pieds noirs qui reviennent sabotent les demandes des pieds rouges. Les pieds noirs, paraît-il, avait des antennes et des amis au ministère à Alger, sabotait systématiquement les demandes qui venaient, parce qu'ils venaient des demandes. C'était, je ne sais pas si on nous appelait pieds rouges, mais c'était des gens de gauche. Les amis que je me suis fait là-bas étaient tous des gens qui avaient plus ou moins milité pour l'Algérie algérienne, pour l'indépendance, et qui étaient partisans de cette indépendance. Je suis arrivée en bateau. J'étais vraiment complètement seule et je ne connaissais personne, ni au départ, ni à l'arrivée. Et comme je ne connaissais personne, je suis allée tout droit au lycée où j'avais été nommée, le lycée qui s'appelait encore lycée Bugeaud. J'ai été reçue immédiatement par le proviseur, tout de suite. Il était dans son bureau, j'oublierai jamais, il avait des charentaises aux pieds. Il était très décontracté, il m'a posé beaucoup de questions, énormément, sur où j'avais fait mes études, d'où je venais, qui j'étais, etc. Et puis à la fin, il s'était excusé en disant « Vous savez, je suis obligée de faire une enquête de police sur chacun des candidats. Je viens de raccompagner au bateau un faux professeur de mathématiques. Comme je n'ai pas de dossier, je n'ai aucun dossier du ministère, je suis obligée de procéder moi-même au recrutement. »
En 1963, Christine a 8 ans et part avec sa mère et ses frères et sœurs rejoindre son père en Algérie.
4 enfants et ma mère. Elle avait arrêté de travailler pour s'occuper de nous, mais ça lui permettait, avec deux tiers de licence, de retrouver du travail. Mais en même temps, elle était inquiète. Enfin, elle nous le disait pas, mais... Nous, du moment qu'on était avec elle, je veux dire, on s'en fichait, mais c'était pas... c'est on va en Algérie, point. Et on s'est retrouvés, après avoir pris le bateau à Port-Vendres, sur un quai, avec quelques malles, quelques valises, en attendant le camion bâché qui devait venir nous emmener à Boufarik. C'était un peu l'aventure pour des gamins aussi. Moi, j'avais 8 ans et demi. On était ensemble, donc on ne se posait pas la question. Mais arriver en Algérie dans un autre HLM immense... C'était autre chose. On a été d'un HLM à un autre. D'un petit HLM qu'on trouvait merveilleux dans la banlieue parisienne. Et c'était tout nouveau, les années 60, la salle de bain, tout ça, c'était chouette. On savait qu'on allait retrouver un pays neuf. Ça avait été dit. Que les Algériens avaient retrouvé leur fierté. Ça, oui, moi, j'avais entendu. Mais pas plus. Le premier jour, j'ai accompagné mon père. On a été dans une épicerie. Il y avait du sucre au détail. Dans des cornets en papier costaud, là, du papier, même ici, comme recyclé, on ne le prendrait pas. C'était ahurissant parce que les gens ne nous disaient rien. Et par contre, le HLM où on était, c'était une cité qui avait été occupée que par des militaires. Il y avait encore des barbelés autour et il y avait une tourelle à l'entrée. Et elle s'appelait Cité Mosquée 2. En face, il y avait la mosquée. Et à 5 heures du matin, c'était pas un coq qui chantait, c'était la prière. Et donc, on avait pris l'habitude d'entendre ça comme rythme, quoi. Mais tout était nouveau. Et donc, c'est qu'après, une fois l'installation faite, là où il y avait un maillon faible, c'était l'école. Parce qu'on n'était que 2 Françaises dans l'école. La directrice était pied-noir et voulait nous favoriser. Je me rappelle d'une fille à l'entrée, juste le jour de la rentrée. Elle devait avoir 13-14 ans. Elle avait des mains avec du henné. Moi, je ne connaissais pas le henné. Elle suppliait qu'on la prenne à l'école. Comme ça, elle ne se mariait pas. Et elle n'avait pas été à l'école. Dès le début, on savait que la mission civilisatrice des Français n'y était pas. Au lycée où j'ai été en 6e, à Boufarik, il y avait de tous les pays. Il y avait un Grec qui ne parlait pas français, presque, prof de maths. Un Hongrois, le prof de musique. C'était tout des pieds, je ne sais pas comment, quelle couleur, mais des gens qui étaient là, qui avaient trouvé refuge un peu, en Algérie. Et 2 profs pieds noirs, c'est tout. Il y avait un enthousiasme quand même, mais un enthousiasme de profs qui débutent aussi. En tout cas, ils parlaient pas mal politique entre eux quand ils venaient voir ma mère, mais je m'étais souvent un peu à l'écart parce que elle, c'était une mère qui avait 4 enfants, qui avait à se débrouiller. Et elle a jamais cherché, je l'ai jamais entendu en tout cas, dire au trotskiste « mais non, tu te trompes » et tout, comme faisait mon père, ou dire à un autre « tu devrais pas dire ça » ou « tu devrais pas faire ça ». Elle débarquait comme nous, je crois. Elle avait une sorte de, je vais pas dire de naïveté, mais elle faisait plus attention aux gens qu'aux causes. Elle avait toujours ses convictions. Son père était un socialiste la première heure. Il avait voulu faire les brigades internationales. Ça, c'était tellement ancré en elle. Elle n'avait pas besoin de le prouver, de le montrer. Elle était curieuse des gens. Et puis, elle avait à s'occuper de nous aussi, je crois. Et j'ai encore des livres à elle. Elle avait le Richard et Wendy Hall. Et elle les transformait parce qu'elle voyait bien que les élèves... En fait, elle avait toujours été comme ça. Elle recevait la pédagogie coopérative de Freinet. C'était des journaux pour les enseignants. Ses élèves l'aimaient beaucoup et l'admiraient. Il y en a un qui est revenu la voir presque 40 ans après en disant oh, « c'est vous qui nous avez formés » et tout. Elle était vraiment à l'aise.
En réalité, ils étaient relativement peu nombreux, je pense. C'était essentiellement des Français. On sait qu'en 62, ils étaient une dizaine de milliers recensés comme coopérants par l'ambassade de France. Mais beaucoup de ces Français qui venaient en Algérie ne se faisaient pas enregistrer, puisqu'ils étaient plutôt réfractaires à l'ordre étatique, à l'ordre colonial. Pour eux, l'ambassade de France, c'était la France, la mauvaise France. Eux, ils étaient la bonne France, ils étaient du côté algérien. Et donc, la plupart d'entre eux ne sont jamais allés se faire enregistrer, d'autant plus que certains parmi eux, chez les hommes, étaient des déserteurs ou des insoumis de l'armée française. Donc, s'ils étaient repérés, ils allaient directement en prison. Donc, leur nombre reste assez flou. Sans doute était-il, alors est-ce que c'est 10, 20 000, ça doit être quelque chose comme ça. Ce qui, en gros, rapport à l'Algérie, est quand même relativement peu de choses, alors qu'à l'époque, l'Algérie, la population rurale était quand même importante, et donc très largement délaissée.
Anne-Sophie Stefanini, écrivaine.
Les Pierrouges étaient très divers et vivaient à Alger, mais ils étaient aussi dans toute l'Algérie. En revanche, ce qu'ils ont en commun, c'était une forme de jeunesse évidente, d'élan évident, et de se dire, ça y est, on y va, on y croit, et on y croit d'autant plus qu'on a gagné la guerre, qu'on a combattu pour ça, et on y croit au point que même les coups d'arrêt, et ce qui aurait dû les alerter sur les difficultés et la façon dont leurs idéaux se fracassaient contre la réalité, c'est qu'ils se disaient « bon, on va faire des compromis. C'est pas grave parce que l'Algérie, c'est notre terrain, c'est notre pays, c'est notre cœur, on est là.
Voilà. » Adieu la France, bonjour l'Algérie. Quand je t'ai quitté, combien j'ai pleuré. Fini ce France, fini l'indifférence. Bientôt je serai avec toi, chérie.
C'était Enfant Pierrouge, premier épisode, l'arrivée des amis de l'Algérie nouvelle. Avec Sylvette Chaumin, Catherine Simon, Christine Aubin, Daniel Hamon et Anne-Sophie Stefanini. Un documentaire de Julia Perrin, réalisé par Laurent Polleret.
La suite du documentaire Enfant Pierrouge, ce sera demain à 13h30.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Bye bye Blondie. Eric et Gloria se rencontrent en hôpital psychiatrique, tombent amoureux, se recroisent 20 ans plus tard. Lui, devenu présentateur connu à la télé, elle, pour seul projet, trouver chaque jour où dormir. Envers et contre tout, leur amour adolescent les rattrapera-t-il? Bye bye Blondie, de Virginie Despentes, réalisé par Laurence Courtois. Le feuilleton, de lundi à vendredi à 20h30 sur France Culture, déjà disponible sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Qu'y a-t-il derrière l'opération biélorusse?
France Culture, Patrick Cohen.
Quelques milliers de migrants réveillent les peurs de l'Europe au moment où, en France, la droite et l'extrême droite font de l'immigration leur principal thème de campagne. On en débat avec Sylvie Kaufmann, Bertrand Badi, Dominique Régnier et Thomas Gomard, en direct et en public au Théâtre de la Ville Espace Cardin à Paris.
L'Esprit Public, ce dimanche à 11h sur France Culture et franceculture.fr, Entrée gratuite sur réservation, théâtredelaville-paris.com.
Bon samedi à l'écoute de France Culture, 14h, c'est l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.